Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Ravi de vous retrouver autour de moi aujourd'hui. Il y a d'abord Alfred Orange, journaliste RMC. Salut Alfred.
Salut Rémi, salut à tous.
Alfred qui est là pour tout nous expliquer, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe autour de nous dans l'actualité, qu'on puisse ensuite en débattre. On débatte notamment avec Pierre Rondeau, économiste du sport. Salut Pierre.
Salut Rémi, salut à toutes et à tous.
Perico Legas est là Rémi. Également, journaliste à Marianne. Salut Perico. Et puis Frédéric Hermel, journaliste RMC. Salut Fred.
Bonjour et bonjour à tout le monde.
Dans un instant, une bénévole des Restos du Cœur évincée de l'association parce qu'elle a affiché sa sympathie pour Marine Le Pen et pour le RN. Est-ce que c'est scandaleux? On vous pose la question, vous nous appelez au 3216 à 12h30. Des entreprises qui aident leurs salariés à arrêter de fumer. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Ça se passe dans le Nord, tiens, du côté de chez nous. On en parlera, c'est à Toyota Onin. À 13h, rendre public le nom des consommateur de drogue. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Cette idée, elle est avancée par le patron des LR, Éric Ciotti, qui veut un choc de sévérité face à la délinquance en France. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, le mariage de Renaud, le chanteur. C'était ce week-end. 30 ans d'écart entre les époux. Est-ce que c'est gênant? Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Le remerciement du jour, remerciement d'une bénévole des Restos du Cœur, évincée de l'association pour avoir affiché sa sympathie à l'égard de Marine Le Pen. Alfred, tout a commencé, tout est parti d'une interview télé.
Oui, la semaine dernière, Colombe, 60 ans, s'arrête devant un micro de nos confrères de TF1 alors qu'elle assiste à Perpignan au meeting de Jordan Bardella. Questionnée sur son état d'esprit, Colombe confie sa sympathie pour le candidat RN aux européennes et son mal à vivre, comme elle le dit, avec le RSA pour seul revenu. Elle confie aussi être bénévole au Resto du Cœur depuis 1988. Mais cette prise de parole déplaît à l'association car elle considère qu'en affichant sa préférence pour le candidat RN, Colombe rompt le principe de neutralité demandé à tous les bénévoles des Restos du Cœur. Depuis, deux versions s'affrontent. D'après nos confrères de TF1, un responsable local aurait demandé à Colombe de démissionner, ce qu'elle aurait fait. De leur côté, les Restos assurent par la voix de leur porte-parole que Colombe n'a écopé que d'un simple rappel du règlement. Démissionnaire, Colombe demande ce matin par l'intermédiaire de son avocat à être réintégré dans l'association, ne souhaitant pas devenir, je cite, un symbole politique.
Une bénévole des Restos du Cœur évincée parce que sympathisante du RN, est-ce scandaleux? Les électeurs du RN, les sympathisants du RN, sont-ils des pestiférés? Vous nous appelez au 3216. Perico Legas.
Il y a un sujet qui est la neutralité des Restaurants du Cœur, qui est une organisation humanitaire qui, justement, tire sa gloire, même si elle est proche, j'allais dire, des pauvres. Donc ça serait plutôt un mouvement dit socialement de gauche, qui est en tout cas caractérisé, c'est Coluche. À départ, ce n'est pas une initiative politique. Et il n'y a jamais eu d'intromission de la politique, si ce n'est de la fracture sociale, dans cette formidable initiative. Alors qu'à un moment donné, un bénévole, de toute bonne foi, qui est cette personne voilà, je vote pour Marine Le Pen et je vote pour le RN parce que pour elle on comprend que c'est le parti des pauvres, hein, et que la détresse.
C'est ce qu'elle dit dans l'interview.
Et en tout cas, et on sait qu'effectivement beaucoup de gens face à la détresse qu'ils rencontrent.
Dans l'interview, et c'est ce qu'elle dit. Oui, elle dit voilà, je suis sympathisant du RN et de Marine Le Pen parce que je suis un RSA, j'ai du mal à vivre. On n'arrive plus à manger, on n'arrive plus.
Voilà. Je sais que ça fait très mal, mais aujourd'hui l'essentiel de l'électorat du Rassemblement National, c'est des gens qui votaient ou auraient voté à gauche autrefois parce que c'était la gauche qui défendait les pauvres. Et les gens, et ces gens-là considèrent pour de bonnes ou mauvaises raisons que c'est aujourd'hui le Rassemblement National qui défend leurs intérêts et que les gens qui sont dans la détresse, la misère, qui sont victimes de la fracture sociale sont aujourd'hui électeurs du Rassemblement National. Pour autant, si il y a une clause de neutralité des Restaurants du Cœur, c'est vrai que c'est une maladresse de sa part à elle d'en avoir fait état. Alors bon, elle a le droit de s'exprimer. Alors la réaction des Restaurants du Cœur OK, elle a transgressé ce code de neutralité, on fait pas de politique. Je voudrais juste savoir si elle avait dit je vote PS, je vote la France insoumise ou je vote Renaissance, si la réaction de Restaurant du Cœur aurait été la même. Mmh. Ils auraient pu tout simplement lui dire écoute, tu nous as mis un peu dans la difficulté. Voilà, on va essayer de n'y reviens pas et tu restes bénévole puisque son action en tant que bénévole est quand même une action probante, engagée, sincère. Voilà, elle fait partie vraiment de l'équipe de là-bas dans sa région. Et de le médiatiser comme ça en disant elle est exclue ou on la rappelle à l'ordre parce qu'elle a dit qu'elle votait RN. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait eu le même, il y aurait eu le même phénomène médiatique si elle avait voté, si elle avait dit être sympathisante ou électrice d'un autre parti politique. Donc c'est bien de rappeler à l'ordre, les Restos du Cœur sont neutres, mais pas trop de focuserie quant à l'étiquette politique des partis des uns et des autres. Ça reste des citoyens qui votent et des citoyens comme les autres.
Là, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une réaction de François Ruffin, oui, de LFI, qui s'est adressé dans un message à toutes les colombes de France,
oui,
que nous ne devons pas mépriser, que nous devons, oui, écouter et convaincre que la solution n'est pas le Rassemblement
national. Exactement. Donc si on est une colombe qui vote à gauche, on est une colombe propre. Mmh. Et puis quand on est une colombe qui vote pas à gauche,
là, c'est
on
est un représentant politique qui a réagi. Donc c'est normal qu'il
ait... Je te dis que l'image que ça donne pour l'opinion publique
de la part de François Ruffin.
Mais je m'en fous de Ruffin. Je te dis que l'image politique.
Là, on commente la phrase de François,
d'accord,
Ruffin.
D'accord. Donc ça continue ce qu'il dit. Quand on est une colombe, selon ça dépend de la façon dont on vote. On est une colombe blanche ou une colombe noire.
Selon Rondeau, est-ce que c'est scandaleux ce qui se passe?
Dans les faits, ça l'est. Si on pose les choses telles quelles de façon très objective, qu'on soit de droite ou de gauche, ou qu'on fasse une sociologie ou une analyse de ce qu'est le RN, le Rassemblement National ou le profil type d'un électeur, au-delà de tout ça, de très loin, en prenant de la hauteur, oui, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux que quelqu'un qui affiche sa couleur politique soit radié des bénévoles des Restos du Cœur. Maintenant, très concrètement, si on regarde dans le fond des choses, si on regarde en profondeur, il y a une obligation de neutralité, il y a une obligation de pas afficher sa couleur politique, et donc on ne fait qu'appliquer le règlement. Quand Perico dit qu'aurions-nous fait si ça avait été un électeur du PS, de LFI ou des écolos, est-ce qu'on aurait la même réaction? J'ai envie de croire, on n'en sait rien,
oui,
mais j'ai envie
sûr
de croire qu'on,
oui,
aurait la même réaction.
Bisounours.
Non mais arrête Fred, on n'en sait rien, tu peux pas me traiter de bisounours, tu n'en sais rien toi-même. Donc arrête de commencer
Pierre,
comme ça.
Il y a eu d'autres cas.
Mon ami.
Il y a eu d'autres cas.
S'il te plaît.
Pierre, il y a eu d'autres cas.
Attendez.
Il y a eu d'autres cas, ça s'est mal passé.
Il y a une obligation de neutralité. Oui. Fred, pour la teneur du débat, ne me traite pas de bisounours, tu n'en sais pas plus que moi. On ne peut pas refaire le monde.
Certes.
Si demain tu as quelqu'un qui s'affiche au meeting de LFI ou d'Europe Écologie Les Verts et qui est Resto du Cœur, il sera aussi radié. Et tu pourras être cassé à ce moment-là. Tu n'en sais rien, je n'en sais rien.
Bon, ça prendra peut-être pas cette forme-là non plus.
Tu n'en sais rien et je n'en sais rien.
Justement, c'est
allez,
ce que je te dis.
Frédéric Hermel.
Je pose la question.
Alors, je vais poser la question. Il y a des milliers et milliers de bénévoles au Resto du Cœur. Mmh. Aucun d'entre eux n'est carté politiquement?
On n'en sait rien, mais c'est dingue.
Mais non, mais c'est mon tour, ok? Aucun d'entre eux n'est... Non, mais je ne peux pas imaginer. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont leur carte d'adhérent à des partis politiques en France. Vous n'avez pas à me dire qu'il n'y a pas, parmi les milliers et les milliers de bénévoles de Resto du Cœur, voire des responsables du Resto du Cœur, des gens qui adhèrent à un parti politique.
Oui, et je suis même en t'écoutant, je me fais
faut
même une réflexion parmi les stars.
Fred.
Ben oui. Qui participent au concert des enfoirés, etc. Parmi les enfoirés.
Oui. Mais il y en a qui étaient notamment dans le meeting de Hollande.
Et qui sont déjà engagés politiquement.
Bien sûr. Politiquement, notamment derrière Hollande.
Juste pour bien reposer le débat,
Alfred,
c'est Colombe qui dit que les restos l'ont évincé. Les restos ont réagi en disant non, il y a eu juste un rappel du règlement. Elle n'a pas été
évincée. Les restos ne se sentent pas très à l'aise dans cette histoire.
Fred,
que se passe-t-il dans cette histoire? C'est l'immense défaite de la gauche. C'est ça le problème. C'est que c'est une vidéo qui a fait plus de 5 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'était les chiffres de ce week-end, c'était encore pire aujourd'hui, plus aujourd'hui. C'est un message de Colombe qui a ému tout le monde. C'est une femme qui, il y a 30, peut-être 20 ou 30 ans, aurait voté à gauche, socialiste ou communiste, mais qui aujourd'hui ne se retrouve plus dans la gauche. Comme beaucoup de gens qui ont voté à gauche, qui ne se retrouvent plus dans la gauche prof du peuple. La gauche qui était une gauche sociale est aujourd'hui une gauche sociétale. C'est-à-dire que les questions sociales de pauvreté, etc., n'intéressent plus la gauche. Aujourd'hui, on va te parler de changement de sexe, on va te parler de voilà, plein de choses, de droits des immigrés, etc., mais on va plus parler aux gens comme Colomb. Et c'est ça le problème. Et le problème aussi, c'est qu'il y a de nombreuses organisations qui, sous couvert de neutralité, sont extrêmement idéologiques. Et bien entendu, Perico, puisque tu posais la question, je vais répondre. Si ce n'était pas un meeting du Rassemblement National, ça n'aurait pas fait de...
Tu n'en sais rien, encore une fois.
Mais pourquoi ça fait le buzz? Parce que c'est une femme pauvre qui était de gauche, qui aurait dû voter à gauche avant, qui est maintenant un soutien de Jordan Bardella. Et je vais terminer sur une phrase. Que les gens qui s'offusquent regardent un petit peu les chiffres. Aujourd'hui, le premier parti de France s'appelle le Rassemblement National. Il va falloir vous habituer les amis.
Mais chez les pauvres, surtout.
Ah, mais les ouvriers, les petits employés,
c'est l'ancien électorat de gauche.
Non, mais même, premier parti de France, Bardella est annoncé à plus de 30% aux prochaines européennes, c'est dans 3 semaines.
Allez, une bénévole des Restos du Cœur, évincée parce que sympathisante du RN. Est-ce scandaleux, vous nous appelez au 32-16. Et Pierre nous rejoint au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Merci bonjour, d'être avec bonjour. Nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Pierre, vous nous appelez depuis la Haute-Garonne, c'est ça?
Oui, absolument.
On est dans quel coin, Haute-Garonne?
Pas loin des montagnes, pas loin de l'Ariège.
D'accord, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Pierre?
Je suis retraité, j'ai 77 ans.
D'accord.
Et au Resto du Cœur depuis 2012. Ah,
très bien, vous êtes bénévole au Resto du depuis 2012.
Ouais. Oui.
Ce qui arrive à Colombe, cette bénévole, ex-bénévole des Restos du Cœur, qui affiche ses sympathies pour Marine Le Pen et qui se retrouve évincée, ou en tout cas qui ne fait pas plus partie des Restos du Cœur aujourd'hui, est-ce que ça vous choque?
Oui, complètement. Je suis tout à fait sur la ligne de Péricot, les gars. Absolument, ça me choque. Ouais, ouais. Parce que est-ce qu'elle a vraiment dit qu'elle faisait partie des Restos du Cœur ou on a dit que c'était quelqu'un qui l'avait reconnu. Alors la délation, je pense que bon, c'est pas très beau. Hein.
On l'a vu sur TF1, donc délation. Calmez-vous.
Non, mais enfin, quelqu'un l'a signalé.
Non, mais d'accord, mais 5 millions de personnes l'ont vu, donc la délation. Attendez sur les termes.
Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une ambiguïté, c'est que. Dans les règlements du Resto du Cœur, suivant que vous êtes bénévole ou vous êtes accueilli, la règle n'est pas tout à fait la même.
Hein, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on n'accepte pas, pour les bénévoles qui soient encartés, enfin qui fassent du prosélytisme ou religieux ou politique, mais par contre on accepte, on sert des accueillis qui ont le voile, donc qui annoncent clairement leur religion, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, elle est en même temps, là, est bénévole et accueillie. Alors, la règle, je ne sais pas exactement, voilà, c'est très ambigu, on va dire. Voilà.
Mais bon. Je peux poser une question à Pierre.
Oui,
parce que on sait, parce que moi, pour avoir contact avec des bénévoles, c'est de plus en plus difficile d'être bénévole. Il y a beaucoup de violence.
Ah, mais tout à fait.
Et il y a beaucoup de bénévoles qui s'en vont, donc je pense qu'on devrait prendre un petit peu plus soin des bénévoles.
Ah, mais complètement. J'ai toujours dit que c'était une denrée très, très rare. Et on nous fatigue, nous, les bénévoles. Je dois vous dire, je continue parce que j'ai la foi, on va dire. Voilà, et que j'ai horreur des injustices. On a laissé beaucoup de monde, là, sur le chemin, là. Avec les nouvelles règles de distribution. Hein. Et donc, naturellement, on pousse peut-être ces gens-là à voter pour l'extrême. Quoi, voilà.
C'est quoi les nouvelles règles de distribution dont vous parlez?
Les règles financières, donc, on a réduit les revenus, donc on laisse, il y a des gens qu'on ne peut plus servir. Et on réduit maintenant les portions qu'on donne aux gens. Si vous voulez.
Ouais, ça c'est vrai, c'est des difficultés financières liées à l'inflation des restos.
Oui, tout à fait, absolument.
Pierre, au sein même entre bénévoles, j'imagine, même si vous ne l'affichez pas publiquement, mais ça discute politique.
Oui, tout à fait. Oui, entre nous, effectivement. Oui, tout à fait.
Et donc, j'imagine qu'au sein des restos, il y a toutes les tendances.
Très certainement. Oui.
Merci Pierre d'avoir été avec nous. Pierre, merci. Bénévole au resto depuis 12 ans. Pierre qui nous appelait depuis la Haute-Garonne. On continue de vous poser la question.
Oui. C'est avéré ou non? Quelle est l'info? Elle est évincée ou elle est
pas? On ne sait pas. Il y a deux versions. Les deux versions continuent de s'affronter.
Il y a une version officielle. Il y a bien une instance.
Les restos disent, on l'a appelée pour lui rappeler qu'elle devait faire preuve de neutralité.
Au resto.
C'est une source.
Ça n'a pas été mentionné.
Ça n'a pas été mentionné.
C'est un communiqué officiel des restaurants du
Non, en tout cas, c'est les restos. Ça, c'est la version des restos.
Ils disent qu'elle est
Voilà, ils lui ont signalé qu'elle devait respecter sa neutralité, qu'ils n'avaient pas appréciée, et qu'elle-même n'aurait pas apprécié la remarque, et qu'elle serait partie d'elle-même.
OK.
Elle dit qu'on l'a poussée à démissionner.
Oui, Pierre, tu voulais dire
quoi? Non, je reprenais ce que disait Péricot. Je pense que là, fondamentalement, les Restos du Cœur, le siège national est un peu offusqué par ce qui s'est passé, est un peu peiné par ce qui s'est passé, mais la section locale de Colombes, elle, a agi et il y a eu opposition.
Une bénévole des Restos du Cœur évincée parce que sympathisant du RN, est-ce scandaleux? Vous nous appelez au 32-16. Anne est avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, c'est ça?
Tout à fait.
Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, Anne?
Fonctionnaire.
D'accord. Est-ce que vous trouvez ça choquant ce qui arrive à cette femme Colombe?
Alors, ce que je trouve surtout choquant, c'est que en la virant, enfin, ou en la poussant très fortement à l'extérieur, c'est que les Restos du Cœur font eux-mêmes un geste politique. Et donc, ce que l'on applique aux uns, il faut l'appliquer aussi à soi-même.
C'est-à-dire
on peut lui faire une remontrance en lui disant, voilà, tu es bénévole, tu es aussi, on te donne aussi parce que tu es au RSA, mais essaye de ne pas afficher tes données politiques, surtout à la télé. Donc faire une remontrance. Là, en fait, ils se font plus de mauvaises pubs que de bonnes pubs pour eux. Et moi, en tant que donatrice, eh bien, je vais arrêter de leur donner. Je vais aller donner aux
populaires. Quand même.
Non, je vais donner au Secours Populaire. Ouais. C'est donner à d'autres. Vous savez, je donne à SOS Village d'Enfants, je donne à plein de d'organismes. Voilà. Mais je donnerai, ben, peut-être au Secours Populaire qui, eux, ne feront pas de gestes trop. On accepte tous les gens de quel que soit le bord politique, je pense, lorsque l'on est bénévole. Le propre du bénévolat, c'est de ne pas regarder les couleurs politiques des uns et des autres ou les relations. Les religions des uns et des autres, mais c'est de donner de son temps.
Après,
tout ça pour eux.
Ce qui pose problème, c'est pas tant qu'elle soit sympathisante ou électrice du RN, c'est qu'elle l'ait dit.
Peu importe.
Oui, mais c'est qu'elle l'ait dit le problème. Publiquement, à la télé.
C'est ça le problème, mais en même temps, je pense que les Restos du Cœur auraient très bien pu donner un communiqué disant qu'ils se désolidarisaient de sa prise de position, qu'eux ne l'étaient pas, et qu'ils lui laissaient quand même, en tant que bénévole, il l'appréciait, et que, justement, ne voulant pas faire de gestes politiques, eh bien, il la gardait en tant que bénévole, mais que justement parce qu'ils ne veulent pas regarder les étiquettes des uns et des autres. Je pense que ça aurait été la bonne. C'est comme si quelqu'un chute, et ben en plus on lui marche encore dessus. Enfin, je trouve que c'est pas normal. Donc moi je vais aller donner à d'autres gens qui sont aussi dans le besoin. Moi j'ai de la chance de pas être trop dans le besoin, je vous le dis, voilà. Mais et j'espère qu'un jour, quand moi je serai dans le besoin, ben, je trouverai des bénévoles, peu importe qu'ils soient de n'importe quelle religion, de n'importe quel bord politique, et j'espère qu'ils me donneront à moi, bien que je sois de telle ou telle, soit de telle couleur, soit de telle religion, soit de tel bord politique. Donc, je trouve que c'est, ils ont pas fait un très beau geste, et ben, moi, j'ai pas envie de les soutenir plus longtemps.
Merci Anne d'avoir été avec nous, Anne qui nous appelait au 3216. Arnaud Benedetti nous rejoint. Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et vous venez de sortir, je le signale, le livre « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ». C'est aux éditions Michel Lafond. Donc on est au cœur du sujet, Arnaud Benedetti. Est-ce que ce qui est arrivé à cette femme, bénévole des Restos du Cœur, évincée parce que sympathisante du RN, en tout cas c'est ce qu'elle dit, est-ce que c'est une mauvaise pub, un mauvais coup pour les Restos ?
Je ne saurais que trop dire, parce que bon, c'est très difficile de lire. Les Restos du Cœur bénéficient quand même d'un capital sympathie, il me semble, dans l'opinion, qui est important. Mais ce qu'il y a, c'est que Colombe a, disons, véhiculé une image qui est une image qui ne peut que manifester de l'empathie, de la sympathie, de la compréhension pour sa situation, parce que c'est la situation de milliers et de milliers de Françaises et de Français qui se retrouvent dans la difficulté.
Faut rappeler ce qu'elle disait dans cette interview.
Elle est au RSA, voilà. Elle cherche un travail, elle a 60 ans.
Elle a du mal à payer ses factures, du mal à se nourrir.
Elle est en larmes, donc je veux dire, il y a un facteur d'identification pour des milliers et des milliers de Français à son parcours, à ses difficultés qui ne peut que se manifester naturellement. Donc oui, en effet, par contraste, je ne suis pas sûr que ça soit une très très bonne pub pour les Restos du Cœur. Mais moi, la vraie question qui m'intéresse, c'est de savoir plutôt pourquoi finalement Colombe était au meeting du Rassemblement national. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de gens adhèrent au Rassemblement national, notamment dans les classes populaires qui sont en difficulté, parce qu'ils considèrent que le Rassemblement national est le seul mouvement politique aujourd'hui qui leur parle et qui est capable, in fine, de porter leurs attentes ou en tout cas leurs inquiétudes et leurs préoccupations. Vous savez, moi, dans le livre, puisque vous m'avez fait le plaisir de citer le livre que je publie, j'ai interrogé beaucoup de politiques, et j'ai notamment interrogé des politiques de gauche, de droite, une parlementaire européenne, Aurore Laluc, qui faisait un déplacement avec Luxman dans l'Ouest, raconte le dialogue qu'elle va avoir et que Luxman a avec des électrices du Rassemblement National. Il leur pose la question que posent d'ailleurs beaucoup de politiques lorsqu'ils rencontrent des électeurs ou des électrices du Rassemblement National. Il leur pose la question pourquoi ils votent Rassemblement National.
Luxman, c'est le candidat PS aux européennes.
Voilà, qui est le candidat PS aux européennes. Et l'électrice lui répond ce sont les seuls à ne pas avoir honte de nous. Je crois que tout est dit dans cette
phrase. Ça fait très mal à la gauche.
Ça fait très mal à la gauche. Ça fait mal à l'ensemble des classes dirigeantes, ça fait mal aux élites, ça fait mal au pouvoir, ça fait mal aussi à la droite, parce que tout simplement, les classes populaires ont le sentiment, à tort ou à raison, mais je crois que parfois à raison, d'avoir été quand même abandonnées ces dernières années. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en effet, le Rassemblement National agrège tous ceux qui se sentent victimes de déconsidération, de mépris. Vous savez, les chiffres sont probants, je sais plus lequel de vos intervenants tout à l'heure autour de la table citait le chiffre du vote ouvrier en faveur du Rassemblement National. Le vote ouvrier au second tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen, c'est 63%. Voilà. Le vote des employés, c'est plus de 54%. Voilà. Le vote des petits commerçants, c'est plus de 50%. Le vote des professions intermédiaires aujourd'hui, c'est près de 49%. Ça veut dire que dans tous les segments sociaux des classes populaires, aujourd'hui, le Rassemblement National est le premier parti populaire de France.
C'est effrayant, Bénédictis, que vous venez de citer.
Je crois que c'est la question que doivent se poser tous les concurrents politiques aujourd'hui du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Et ça s'est sédimenté depuis des années. Ça s'est peut-être accéléré sous Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, par sa pratique du pouvoir, par sa communication, par certaines erreurs en matière de politique publique, a accru ce sentiment finalement de déconnexion entre les élites dirigeantes et les classes populaires et les classes moyennes aussi, parce qu'il faut noter que le vote progresse dans les classes moyennes de manière spectaculaire. Et donc on a ce résultat et finalement ce sentiment de déconsidération, de dépossession. Souvenez-vous de la crise des Gilets jaunes. Quand vous avez un porte-parole du gouvernement qui, en pleine crise des Gilets jaunes, au lieu d'essayer de calmer le jeu, traite les gens qui sont sur les ronds-points de fumeurs de clopes et de gens qui roulent au diesel, ouais, vous ne pouvez qu'accroître ce sentiment
de
déconsidération. Je crois que vous avez finalement, je veux dire, un phénomène qui est sociologiquement profond, mais qui est accentué aussi, malheureusement, par la réponse parfois des pouvoirs publics.
Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Je cite à nouveau l'apparition de votre livre « Portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ». C'est aux éditions Michel Lafond. C'est un livre qui n'est plus jamais que d'actualité. On va en débattre pendant une demi-heure et on l'a bien compris. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à tous ceux qui nous appelaient qui nous ont appelés au 32-16. On vous a posé la question sur nos réseaux sociaux. C'est notre consultation. Une sympathisante RN évincée des Restos du Cœur, est-ce scandaleux? Et le verdict, il est sans appel.
Vous répondez oui à 88%, non à 12%. Je finis avec deux messages, Rémi. D'abord, Fabio qui dit « Les bénévoles donnent de leur temps pour les autres. Qu'est-ce que la politique vient faire là ?» Et puis Xavier qui nous dit « Il y a une charte qu'elle a signée, donc elle doit se taire. Les restos sont apolitiques. »
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On va parler de ces entreprises, notamment de Toyota à Honin dans le Nord, qui aide désormais leurs salariés à arrêter de fumer. Ouais, ça se fait. Vous êtes pour, vous êtes contre. Vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. C'est l'initiative du jour. Initiative prise par la direction de l'usine Toyota. On est à Honin, dans le Nord. Une initiative pour aider ses salariés fumeurs à arrêter le tabac, arrêter de fumer. Alfred, le dispositif, il a été mis en place il y a un an et demi. Et ce qui est nouveau, c'est que on vient d'avoir le premier bilan de l'opération, de cette mesure. Et apparemment, ça marche.
Oui, puisque sur les 160 salariés volontaires, un tiers ont arrêté de fumer. Le résultat d'une collaboration étroite entre cette usine Toyota d'Honin et le CHU de Valenciennes. Pour y arriver, ces 160 salariés volontaires ont donc suivi pendant tout ce temps des consultations, de sevrage, des conseils conseils de médecins, le tout sur leur temps de travail. Les cours d'hypnose aussi ont été proposés aux plus accros. Résultat, une soixantaine de salariés a donc arrêté de fumer et 60% ont réussi à diminuer leur consommation de tabac. Seul bémol, cette initiative n'a été suivie que par 160 salariés sur les 5000 que compte l'usine. Beaucoup de travailleurs n'ont donc pas été sensibles à la proposition faite par leur employeur qui s'attaque donc quand même à un sujet fondamental, Rémi, puisque la consommation de tabac en France restait, selon les derniers chiffres, la première cause de décès évitable avec 200 morts par jour.
Et pour parler argent, puisque là il y a une question aussi de ce que ça coûte à la société, on dit toujours que oui, l'État se fait plaisir avec les taxes sur le tabac, ça rapporte 17 milliards d'euros par an et selon certaines estimations, si on compte le coût global du tabagisme en France, c'est quelques 80-100 milliards
c'est
d'euros
plus
par
selon
an.
Les estimations. Voilà, il y a d'autres études qui partent sur 150
parce que
milliards.
Il faut compter tout, il faut compter la baisse de productivité pour notre pays avec les gens qui sont malades du tabagisme, etc. Enfin bref, ça coûte très cher. Et ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Alfred, particulièrement intéressant, tout était intéressant Alfred évidemment.
Merci.
Mais particulièrement intéressant, c'est que ces demi-heures de consultation au pluriel, elle est prise sur le temps de travail. Donc des entreprises qui aident leurs salariés à arrêter de fumer, vous êtes pour, vous êtes contre, vous nous appelez au 3216. Fred Hermel.
J'aime beaucoup cette initiative parce que je crois foncièrement dans le rôle social de l'entreprise. Une entreprise n'est pas simplement un endroit où on vient produire, où on vient travailler, où on vient gagner de l'argent. C'est un endroit de vie parce qu'on passe une grande un tiers de notre vie dans l'entreprise. Certains même plus. Et donc, c'est un élément de vie important. Et je pense que c'est du gagnant-gagnant, en fait. Parce que l'entreprise a tout intérêt à avoir des salariés en meilleure santé. On sait très bien que quand on fume beaucoup, même quand on fume, automatiquement, c'est pas bon pour la santé. Et puis, dès qu'on arrête de fumer, on retrouve du souffle, on a une meilleure teint, on a une meilleure haleine, on se sent mieux.
C'est important, l'entreprise.
C'est important de se sentir bien. Je veux dire, c'est tout. Il y a que du bénéfice là-dedans. Et moi, je trouve ça bien que ce soit pris sur le temps de travail. C'est-à-dire que l'entreprise lance un message aux salariés. Il n'y a pas l'excuse, j'ai pas le temps de m'en occuper après, je dois rentrer chez moi. Non, c'est sur ton temps de travail. Donc, moi, je trouve que c'est magnifique. Alors, je sais que certaines personnes vont considérer qu'il y a un côté un peu paternaliste.
Ouais,
comme dans les vieilles entreprises. Ouais. On connaît dans le Nord les grandes entreprises de la fin du 19e siècle, les mille, les filatures et tout ça. Mais moi, je trouve justement que c'est important que l'entreprise soit aussi vecteur d'amélioration de la santé, de la vie des gens. Et puis, en plus, il y a un truc, c'est que, on parle d'ouvriers, des ouvriers. C'est un travail qui est dur et souvent l'entreprise aussi c'est l'endroit où aller à la pause on va sortir pour prendre une clope etc. Le fait que l'entreprise dans la tête de ses employés soit associée au sevrage du tabac c'est bon aussi, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances de retomber dans la clope.
Ouais, mais même aussi tu parles de paternalisme et je te rejoins totalement. C'est vrai que beaucoup de gens pourraient taxer la chose de paternaliste. Là ça part sur la base d'un volontariat.
Bien sûr.
C'est pas une injonction, c'est pas l'injonction entreprise de dire vous devez vous arrêter de fumer.
Encore heureux,
mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans une forme de paternisme.
Oui, mais est-ce que c'est pas un peu quand même.
Société, ces grandes entreprises
pour apporter la contradiction, parce que vous êtes d'accord ensemble, ensuite je vais donner la parole évidemment à Perico, mais c'est pas un peu l'entreprise nounou, quand même, le patron nounou.
Non, puisqu'on n'est pas dans. Justement, je fais bien la distinction entre cette forme de paternalisme où on va. J'ai en tête Peugeot, Renault qui a imposé les ouvriers à faire du sport, qui avait créé des clubs de foot au début du siècle, qui leur imposait un temps sur le temps de travail ou sur le temps de loisir, de s'associer, de rester dans le cadre de l'entreprise et de participer à toutes les pratiques de loisir extra-professionnelles. Là, il y avait une injonction, il y avait une forme de contrôle paternaliste. Là, c'est la base du volontariat, ça a été rappelé. Il y a une centaine de personnes qui ont été volontaires sur les quelques 5 000 employés. Donc, c'est pas paternaliste, c'est simplement un service auprès du CE, j'imagine, qui est offert aux salariés pour qu'ils arrêtent de fumer. C'est gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour les salariés.
Des entreprises qui aident leurs salariés à arrêter de fumer, vous êtes pour, vous êtes contre, vous nous appelez au 3216. Perico, les gars.
Normalement, il n'y a pas de débat. C'est une initiative privée d'une société privée qui propose de façon optionnelle à ses salariés. Mais oui, c'est nounou. Bien sûr, non, mais pourquoi ? Toujours bisounours, toi, c'est terrible.
Ah, mais voilà.
Non, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est une entreprise d'origine japonaise. Le patronat japonais a toujours été paternaliste, il a toujours été protecteur, hygiéniste. j'allais dire écologiste avant l'heure, parce que c'est un pays qui a été confronté d'abord à un problème nucléaire grave, ensuite à l'hygiène, ensuite à l'environnement, parce que c'est un pays très peuplé. Donc la tradition japonaise, c'est qu'on accompagne le collaborateur, les salariés, à s'émanciper d'une addiction, d'une contrainte, d'être en bonne santé, voilà. Et au Japon, c'est monnaie courante.
Donc c'est bien ou pas bien ?
Les sociétés qui le font pas, au Japon, elles sont considérées comme pas très sociales. Pour nous, on a tendance à dire... De quoi je me mêle, c'est ma vie privée, le fait de fumer, si j'ai envie de me suicider au tabac, voilà. Et t'as un patronat qui te dit, je vous propose, il paye tout, je vous propose, si vous vous sentez en addiction, vous avez envie d'un coup de main pour vous en sortir, je vous propose de vous aider. Je trouve ça socialement formidable. Il y a vraiment... Alors, c'est vrai que c'est une mesure, je vais pas tomber, pas puritaine, mais en tout cas hygiéniste, et c'est vrai que dans la mentalité française... il vaudrait mieux que vous nous payiez un peu mieux que de savoir si on fume ou pas.
C'est au niveau du pouvoir d'achat, bon, c'est une sacrée amélioration.
Non, mais bien sûr,
on t'aide à arrêter de fumer.
Et les entreprises japonaises et le paradoxe, c'est qu'heureusement qu'on a, moi qui suis quand même sur la protection de notre industrie, aujourd'hui quand on achète une voiture et que tu vas acheter une Peugeot ou une Renault, le concessionnaire te dit pourquoi vous pas acheter une voiture française, il y a pas une pièce qui est faite en France, alors qu'avec Toyota, on sait que c'est fabriqué en France avec du matériel français. Fred. Donc là-dessus, il y a pas de c'est pas une société étrangère qui vient se mêler de nos affaires. Surtout, elle est impliquée dans l'économie française.
Surtout, il faut rappeler, quand Toyota est arrivé dans cette zone sinistrée de Honin, enfin de Valenciennois, ouais. Cette zone-là, c'était un gros événement. C'était un énorme événement. Et surtout, ce qui était très intéressant, et il faut souligner cela, parce que Toyota non seulement s'est installé, mais reste et fait ses actions sociales. Ça prouve que la France peut encore être attractive pour les investissements étrangers. D'ailleurs, elle l'est, parce que nous avons...
Elle nous donne des leçons.
Mais faut voir le côté.
Elle fait du protectionnisme.
C'est que la France peut attirer des grandes entreprises étrangères. Et ça, c'est quand même très important. Aussi, pourquoi? Parce que nous avons certaines infrastructures de routières, de rails, etc., qui sont très intéressantes.
Ouais, il en faudrait davantage. Le pays est quand même plutôt désindustrialisé que.
Quand Toyota est arrivé, ça fait déjà un moment, ça avait été un gros événement hyper positif pour la région et pour la France.
C'est pas eux qui ont désindustrialisé la République française qui s'est désindustrialisée toute seule.
Entreprises qui aident leurs salariés à arrêter de fumer. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous nous appelez au 3216, vous réagissez également sur les réseaux sociaux et notamment sur Direct Studio, il y a des messages.
Ah, beaucoup, vous êtes très nombreux à nous écrire. Ludivine qui dit, d'accord pour aider les fumeurs, mais pour les autres, on fait quoi? C'est regrettable que l'entreprise doive prendre tout en main. Et puis Diff qui nous dit, rien que l'argent économisé devrait motiver les gens à arrêter. La preuve, moi j'ai arrêté de fumer le 10 octobre 2011 avec un paquet à 6 euros. Depuis, j'ai économisé 25 000 euros.
Ça peut être quoi les autres, quand ils disent les autres, d'autres cas d'addiction,
addictions, d'autres maladies,
d'autres services.
Si vous le faites pour le fumeur, pourquoi vous ne le faites pas pour un traitement
Alors là, dans ce cas-là, on s'en rend plus,
pas,
c'est pas un hôpital.
Donc, la question. Des quoi, t'as dit bon. Si le CE propose à Toyota d'étendre à d'autres types d'addictions, d'aider les gens, je pense qu'ils disaient tout se négocier dans la vie.
Bernard est avec nous. Bonjour Bernard.
La porte est ouverte.
Salut Rémi, salut tout le monde.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis Lyon, Bernard.
C'est ça, ouais.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis cariste.
D'accord, très bien. Entreprise, c'est quoi, c'est une PME? TPE? Petite entreprise? C'est un grand groupe, d'accord. Voilà. Tiens, vous êtes fumeur ou pas?
Ouais.
Si votre entreprise vous proposait demain de vous aider à arrêter de fumer, par exemple en proposant des consultations, là, comme c'est le cas chez Toyota à Honin, une demi-heure sur votre temps de travail pour bénéficier de consultations pour vous arrêter de fumer, est-ce que vous seriez partant?
En fait, j'ai déjà fait, moi.
Ah, c'est vrai?
Oui, il y a quelques années en arrière, ouais. L'entreprise avait dédié une part du budget à des séances qui étaient même sur site, en plus.
Sur votre temps de travail?
Sur votre temps de travail.
D'accord. Et ça, je vous ai demandé si vous étiez fumeur, vous m'avez répondu oui, donc c'est que ça n'a pas tout à fait fonctionné. Mais bon.
Alors, pour moi j'ai arrêté suite à cette
d'accord.
À cette comment je pourrais je sais pas comment le définir. En réalité.
Initiative.
J'ai arrêté, mais j'ai repris derrière. Parce
que d'accord. Voilà, bon. Mais en tout cas, ça vous avait aidé à arrêter.
Et j'étais très étonné par la participation des gens.
C'est-à-dire
qui se sont dit, ok, bingo, moi j'y vais. Voilà.
C'est vrai qu'il y a eu un vrai enthousiasme parmi vos collègues.
Oui, et je crois que je suis un des derniers, ou peut-être l'un des derniers à encore fumer en ayant participé à ce programme-là.
Parce qu'il y a l'effet d'entraînement. En fait, quand ton pote au boulot fait ça, tu te sens moins seul en fait.
Ouais, c'est clair.
Hein. Et l'inverse est vrai malheureusement.
Parce oui, bah oui, c'est la... parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à
la
fumer.
Club social, oui, ça on peut.
Donc, ça va dans le bon sens aussi.
Ouais.
Et Bernard, à l'époque, j'imagine avec vos collègues, vous en avez discuté. Comment vous avez, enfin, parce que c'est surprenant au départ, j'imagine que vous avez été surpris.
Ah, complètement, mais en fait, c'est pour ça. J'entends, ouais, faut pas tout prendre en charge. Après, c'est l'entreprise qui a décidé de dédier une part de son budget à ça. Elle était pas obligée de le faire.
Ouais.
Mais elle a décidé et ça a vraiment marché. Hein. Alors voilà, moi je suis le contre-exemple parce qu'il en faut.
Oui.
Comme j'ai dit dans mon message, moi si demain ils refont ça, je suis le premier à m'inscrire. Je suis le premier.
Merci Bernard pour votre témoignage. Merci. Merci Bernard. Bernard qui nous appelait depuis.
Bon courage à tous ceux qui travaillent cette semaine.
on est là. Bah, on le prend aussi pour nous. Merci Bernard d'avoir été avec nous au 32-16. Catherine nous rejoint. Bonjour Catherine.
Bonjour.
On était à Lyon, on va à Aix-en-Provence, c'est ça Catherine ?
Exactement, exactement.
Vous faites quoi dans la vie Catherine ?
Je suis assistante dans un gros groupe.
Voilà. Gros groupe. Est-ce que vous aussi, vous avez bénéficié de ce type de mesure ou est-ce que vous aimeriez ?
Non, moi je ne fume pas.
D'accord.
Et j'aimerais que les non-fumeurs soient un petit peu plus récompensés justement par rapport au fait qu'ils sont plus productifs que les fumeurs qui prennent énormément de pauses.
Ça c'est pas faux.
C'est pas bête, hein. Voilà, donc c'est vrai que on tolère quand même ce qui peut être compréhensible. Hein. Mm. On tolère un temps de travail moindre pour les fumeurs qui vont se détendre avec leur pause cigarette. Et moi, en tant que non-fumeuse, c'est vrai que je prends quand même beaucoup moins de pauses par rapport à tout ça. Et je considère être un petit peu plus productive que les fumeurs. Voilà.
Sans Donc, ce que vous aimeriez, c'est qu'on récompense
tout le monde.
Les non-fumeurs.
Exactement.
Autant.
Non. Ce qu'elle voudrait, c'est qu'on récompense les non-fumeurs.
Si on donne le droit aux fumeurs de prendre des pauses, on doit aussi. Et d'ailleurs, la pause syndicale existe. Ouais. Les non-fumeurs ont le droit de s'arrêter un quart d'heure toutes les heures.
Oui, mais le prennent moins parce qu'il y a moins d'envie, il y a moins de besoin.
Oui, mais après, c'est vrai, mais sachez-le, vous pouvez le faire. Tu as raison,
mais vous pouvez le faire. Mais comme je n'ai pas ce besoin de fumer,
oui, ou aller se balader, aller gambader dans les couloirs.
Mais tu sais comment ça marche, Catherine, tu la comprends. Quand tu es. Moi, je suis fumeur, donc voilà. Ça reste une addiction. Et tu sais très bien que si tu dis, ouais, mais là, j'ai pas fini, non, je vais être à la bourre, je prends pas de pause. Si je suis pas fumeur, j'aurais plus tendance à le faire. Si vraiment on est addict à la cigarette, on dit, ouais, tant pis, le besoin de tabac.
Je suis totalement d'accord. Maintenant, de dire que les fumeurs sont plus aidés que les non-fumeurs, d'un point de vue syndical, c'est faux. Mais ils ont tout autant droit à des pauses. Mais vous avez raison de dire que je prends moins de pauses quand je suis non-fumeur.
Catherine.
Il y a quand même une forme d'assistanat quand on propose une aide encore pendant le temps de travail. À un moment donné, je pense qu'il faut que les gens se responsabilisent. Quand on travaille, on est adulte.
On peut l'entendre.
Qui n'a été prise que par une centaine de personnes sur 5 000 employés. Donc l'assistanat, il est très léger.
Il y a 160 personnes là, à Toyota qui ont
sur 5 000.
Qui ont bénéficié de cette initiative, qui ont été portées volontaires pour assister à ces consultations pour arrêter le tabac.
Pour l'instant,
sur 5 000.
C'est à titre expérimental, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va s'enclencher dans d'autres sociétés. Alors moi, je ne suis pas contre que les gens prennent des pauses cigarettes, hein, c'est très bien pour eux, mais j'ai l'impression quand même qu'on commence à assister beaucoup trop les gens.
Deux poids, deux mesures, voilà. On peut entendre ce que dit Catherine. Merci Catherine d'avoir été avec nous.
Et
Arnaud nous rejoint. Arnaud, on est dans le Haut-Rhin, on est à Mulhouse, c'est ça Arnaud ?
Voilà, c'est ça, oui.
Bonjour. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Arnaud, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis commercial.
Fumeur ou non-fumeur ?
Non-fumeur.
Non-fumeur. Est-ce que cette initiative prise à Toyota Honin, ça vous surprend ? Vous trouvez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée ?
Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que ça devrait être repris dans plusieurs entreprises. Mmh. Je suis un peu d'accord avec l'auditrice précédente. Pour moi, Catherine, en tout cas, il devrait y avoir deux grilles salariales. Clairement, un fumeur devrait toucher moins qu'un non-fumeur.
Ah non, mais bon, ouais, légalement, je sais pas si ça serait possible.
Mais c'est même constitutionnel.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en y réfléchissant, ça pourrait motiver quand même. Mais oui, Arnaud, rapidement, très rapidement.
Moi, j'ai connu les deux. Alors, j'ai travaillé dans une grande surface de bricolage où fallait pointer la pause. C'était une pause le matin, une pause l'après-midi. Donc, à la limite, t'as pas trop le choix. Mais quand t'es dans une entreprise où c'était pas contrôlé, un fumeur, il prend 8-10 pauses la journée, facilement, quoi.
Ça, on l'entend aussi dans les couloirs, et y compris RMC, parfois, il y en a qui
pas le même rendement.
Je l'ai déjà entendu. Merci, Arnaud, d'avoir été avec nous. Arnaud, donc, qui nous appelait au 3216. On vous a posé la question sur nos réseaux sociaux des entreprises qui aident leurs salariés à arrêter de fumer. Vous êtes pour, vous êtes contre?
Vous dites, oui, à 79% contre, à 21%. Un dernier message message de Fabien qui dit « C'est une très bonne initiative de la part de l'entreprise. On n'imagine pas à quel point il est difficile d'arrêter la cigarette. »
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Anthony qui va nous parler notamment alarme et nouvelle tech pour lutter contre l'insécurité et les cambriolages. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, Anthony Morel nous a rejoint.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Ah bah oui, ah. On est dans c'est le ça, thème parce qu'on va parler sécurité. Caméra de surveillance, paintball, ampoule intelligente, des solutions de surveillance high-tech. Anthony, d'abord bonjour.
Bonjour.
Ça se développe de plus en plus.
Absolument, et je vais vous parler d'une caméra de surveillance un petit peu particulière puisque celle-ci, si elle détecte un intrus...
Ah oui,
elle tire à vue.
Non. Alors, c'est une caméra fameuse.
Ouais, alors presque, parce qu'elle tire pas des balles réelles. Heureusement, j'en aurais peut-être pas parlé dans la chronique. Donc, sinon, elle tire.
Faut pas qu'elle se trompe, la caméra.
Faut pas qu'elle se trompe. Alors, c'est tout le sujet. Alors, elle tire, je vous explique quand même, elle tire des balles de paintball. Elle tire des billes de paintball. C'est-à-dire que si elle détecte un intrus qui s'apprête à entrer chez toi, elle lui balance des billes de paintball à la figure. Voilà.
Ça sert à quoi?
Bah, ça sert à quoi? C'est à faire fuir le cambrioleur. Tu te prends des billes de paintball.
Si je prends la peinture, bon, je vais rester, je prends.
Oh, mais ça fait mal. T'as déjà fait du paintball? Franchement, ça fait, non, ça fait mal. Puis ça fait bizarre quand même.
Oui, tu peux sur toi tout à l'heure.
Parce que le gars est pas censé savoir non plus que c'est des billes de paintball. Il sait juste qu'il est en train de se faire tirer dessus. Il entend des petits pouf pouf et voilà. Enfin, c'est pas forcément génial. Alors, je vous explique un petit peu le principe. En gros, c'est une caméra avec un système de reconnaissance faciale. Il y a certaines caméras de vidéosurveillance qui ont déjà ça. Donc, tu peux, en gros, choisir qui a accès et qui n'a pas accès. Donc, la famille, évidemment, la nounou, éventuellement, le facteur. Mais si c'est quelqu'un qui est pas inscrit, donc faut pas se planter dans les inscriptions, si vous voulez. Ben, à ce moment-là, la caméra t'envoie une alerte à toi sur ton smartphone. Elle met en joue la personne, donc petit rayon laser rouge, du genre vas-y, approche-toi pas trop. Oh, et si le gars s'approche, eh ben, il va se faire bombarder de billes de paintball. Alors, je te jure, hein, Pierre, ça fait quand même assez mal, première chose. Donc, il y a quand même un effet panique qui peut faire fuir les gens. Et puis, deuxième effet qui se coule, je trouve ça pas mal, c'est que ça te marque aussi. C'est-à-dire que si les policiers, une demi-heure après, trouvent deux gugus dans la rue qui sont peinturlurés de partout, ils vont avoir du mal à dire c'était pas moi, quoi. Tu vois, c'est quand même pas mal. Donc là, après, le petit bémol de ça, c'est que, un, je pense qu'en France, c'est complètement illégal. Là, pour le coup, elle est en financement sur les plateformes internet, mais aux États-Unis, aux États-Unis, à mon avis, ça passe dans certains États. En France, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'effectivement, faut pas se planter quand tu choisis qui a accès à la maison et qui n'a pas accès. Parce que si tu,
ça,
tu vois
sûr,
le livreur Amazon, il risque d'être content, quoi.
Ou la grand-mère.
Ou la mamie. Désolé, mamie, on avait oublié.
En tout cas, c'est sûr que, sans aller jusque-là, les caméras de surveillance, elles se sont complètement réinventées ces dernières années.
Oui, c'est ça, parce que celle-ci, bon, c'est presque un peu plus gadget qu'autre chose, mais c'était pour vous dire que, voilà, il y a énormément d'évolutions technologiques dans les caméras de vidéosurveillance, avec notamment, effectivement, de la reconnaissance faciale, hein, qui maintenant est assez standard sur les caméras un petit peu haut de gamme. Tu as même des caméras qui peuvent se déplacer dans la maison, elles ne sont pas fixes. Tu vas pouvoir les piloter depuis ton smartphone, leur faire des rondes, en fait, donc elles peuvent se balader dans la maison et t'envoyer des images depuis ton téléphone, ou alors tu peux toi piloter pour dire ah bah, je sais pas ce qui se passe dans la cuisine, je vais aller faire un petit tour, et donc c'est un petit robot caméra qui va aller se balader dans la cuisine. Tu en as d'autres qui sont couplés à des générateurs de brouillard. Alors ça, c'est assez malin aussi, c'est-à-dire qu'en gros la caméra va, lorsqu'elle détecte un intrus, bah envoyer un brouillard épais qui va empêcher au cambrioleur de se repérer. En gros, s'il reste plus d'une minute, il peut plus bouger, quoi.
Bon, après faut aérer, quoi.
Après faut aérer, ouais, c'est mieux, effectivement. Mais sur le coup, c'est quand même assez pratique. Enfin, faut voir que ces caméras de vidéosurveillance, t'as des budgets maintenant de 30 à 300 euros en fonction de la qualité de l'image, du son, la consommation électrique, le stockage. Est-ce que c'est dans le cloud, pas dans le cloud? Et puis toutes les fonctionnalités dont je viens de parler. Donc vraiment beaucoup d'innovation dans ce domaine-là.
Très rapidement, ça c'est pour l'intérieur de la maison, mais il y a aussi on peut surveiller son jardin aussi.
Ah ouais, alors ça, moi j'adore, pour le jardin, mais alors il faut vraiment avoir les moyens, puis un grand jardin, c'est le drone de surveillance résidentielle extraordinaire, qui est caché dans une niche dans le jardin. Il y a des petits capteurs un peu partout, s'il détecte la présence d'un intrus, il décolle, et il se met à filmer en fait, donc tu vois tout ce qui se passe en temps réel, il va suivre l'intrus, le cambrioleur potentiellement, et t'envoyer toutes les images.
Ça marche pour les chats, parce que j'ai beaucoup de chats de voisins qui viennent dans mon jardin.
Il fait la différence normalement entre un intrus, un être humain et un animal, donc il sait faire la différence, mais tu pourras avoir les images du chat si ça te fait plaisir.
Mais merci. Et tu parles le chat quand même.
Non, il tire pas sur le chat. Non. Ni sur les humains.
Merci. Anthony, on se retrouve évidemment demain. Dans un instant, tiens, on va parler de cette proposition LR. Proposition, tiens, pour lutter contre la délinquance. Rendre public les noms des consommateurs de drogue récidivistes. Une idée développée par les LR. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mais on vous pose la question. Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.